un pas de côté.
Bienvenue dans l'édition numéro 34 d'Un pas de côté, votre magazine d'évasion touristique en Vercors-Drôme. Et c'est l'édition de mai 2023. Nous sommes en compagnie de Damien, de l'Office de tourisme Vercors-Drôme. Bonjour Damien.
Bonjour Anouchka, bonjour à toutes et tous. La vie d'un territoire est marquée par une série de rendez-vous qui ponctuent l'année. Et en Vercors-Drôme, nous avons cette chance d'en avoir de nombreux. Ce mois de mai voit arriver un événement qui est important, qui nous incite à prendre notre sac à dos pour aller rencontrer des passionnés de nature.
Tout à fait Damien, vous parlez de la fête de la nature qui se déroule du 24 au 29 mai prochain dans toute la France. À cette occasion, des milliers de manifestations sont organisées sur tout le territoire français pour mettre en valeur les espaces naturels sensibles, les ENS. Nous avons rendu visite à Annick Lotte, éco-garde du département de la Drôme sur le site de l'ENS de Fondurle sur la commune de Bouvante pour une visite de l'alpage en sa compagnie.
Un pas de côté.
Annick-Claude, bonjour, vous êtes éco-garde du département de la Drôme et nous vous rendons visite aujourd'hui sur l'alpage de Fondurle sur la commune de Bouvante, à l'approche de la fête de la nature qui se déroule du 24 au 29 mai sur l'ensemble du département. Vous m'avez amené sur un site qui s'appelle La Glacière. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu où on se trouve actuellement ?
Eh bien, bonjour à tous, je suis ravie d'être là, je vous remercie. Le site de La Glacière, c'est un endroit un peu particulier du plateau de Fondurle, où c'est une grotte qui est accessible facilement, qui a été créé par un effondrement. Et l'hiver, on peut y voir facilement des petites stalactites de glace. Et l'été, il y fait toujours frais. C'est toujours un petit spectacle sympathique.
Et donc, on a les chocards actuellement qui tournent au-dessus de nous. Vous me disiez donc qu'ils nichaient sur ce site.
Les chocards, ils aiment bien les petites failles humides. Et à peu près toutes les années, on a un couple de chocards là, qui nichent à l'entrée de la grotte. Et là, comme il y a plusieurs personnes qui viennent de passer, les parents, ils ne sont pas très, très contents. Mais bon, ils ont l'habitude quand même.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent ici, donc ça fera partie, ce site, donc, des animations qui vont se dérouler à l'occasion de la fête de la nature. Est-ce qu'on peut peut-être d'abord revenir sur cet événement ? Qu'est-ce que c'est que la fête de la nature et qu'est-ce qui va se passer ?
Cet événement, c'est tout un ensemble d'animations qui se déroulent sur l'ensemble du département de la Drôme et qui permettent à tous de venir se promener et découvrir les richesses naturelles de notre département. Il va y avoir un focus tout particulier le week-end du 27 et du 28. Et dans chacun des ENS départementales, et il y aura des animations qui vous seront proposées.
Donc ces animations vont se dérouler sur les ENS, c'est-à-dire les espaces naturels sensibles du département de la Drôme. Quels sont-ils ?
Alors, il y a 9 ENS sur le département, mais ceux qui sont concernés par la fête de la nature, ce sont la forêt de Soux, le parc de l'Orient, Ambel, Fondurle et le marais des Bougligons. Donc dans chacun de ces ENS, vous aurez des animations.
Nous allons parler un peu plus précisément donc du plateau d'Ambel à Amblaise, mais surtout donc de l'alpage de Fondurle à la Bouvante où nous nous trouvons actuellement. Tout d'abord, est-ce qu'on peut revenir sur les ENS ? Qu'est-ce que c'est qu'un ENS ?
Alors, un ENS, c'est un espace départemental, donc c'est une propriété du département que le département a souhaité protéger et classer, sur lequel il va déterminer un plan de gestion, et c'est-à-dire un plan pour gérer cet espace sur 10 ans. On va faire des points à 5 ans, mais voilà, sur 10 ans, on se projette sur 10 ans. Et on va faire vivre sur cet espace des activités pastorales, forestières, touristiques, et gérer une préservation, c'est-à-dire faire des suivis d'espèces floristiques ou faunistiques.
Donc ce sont des espaces naturels qui sont choisis pour leur particularité ou pour leur spécificité ?
On va dire que ces espaces, ils font l'unanimité pour dire qu'ils ont une grande valeur naturelle et patrimoniale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Tout droit au moins est fier d'aller à Fondurle, d'aller en forêt de Soue ou dans le parc de l'Orient. Et le département a pu les acquérir au fil du temps.
Alors on va se mettre un peu plus à l'abri parce qu'on a pas mal de vent autour de nous. Elle fait tourner, ça fait comme un tourbillon. Ah oui, là c'est mieux. Annick Laude, donc éco-garde du département, on était en train de parler des ENS sur le territoire. Et donc on se trouve plus particulièrement sur l'alpage de Fondurle à Bouvante. Quelles sont les caractéristiques naturelles particulières de cet endroit ?
Donc le plateau de Fondurle, comme le nom l'indique, c'est un alpage. Donc on va avoir du pastoralisme l'été. Et on a un grand plateau calcaire avec des reliefs karstiques, c'est-à-dire des reliefs liés à l'érosion dans le calcaire. Et du coup des grosses falaises qui donnent vue sur le Diwa, des falaises qui font bien 200-250 mètres. Alors on peut se promener tranquillement en étant dans l'alpage et en ayant vue au-dessus de ces falaises. Donc ça, c'est la grande caractéristique de cette ENS.
Et on disait tout à l'heure que c'était un moment particulièrement joli pour venir découvrir l'alpage.
Ah ben en ce moment, l'alpage, il est particulièrement fleuri. Vous allez avoir tout plein de jonquilles, d'érythroniums, des contrastes de couleurs entre le blanc, le bleu, le jaune. C'est tout à fait magnifique. Alors par contre, vous ne ramassez pas les fleurs. Hein, et on les laisse dans l'alpage. De toute façon, elles seront fanées quand elles arriveront chez vous. Donc voilà.
Donc ça va être un moment particulièrement adapté pour venir découvrir le site à l'occasion de la fête de la nature. Et donc vous parliez de cette règle à respecter de ne pas ramasser les fleurs. Est-ce qu'on a d'autres règles à respecter sur un ENS ?
Ben, il y a un règlement particulier par rapport aux chiens. Donc toute l'année, le chien doit être tenu en laisse et il est interdit du 15 juin au 15 septembre. Donc voilà les deux règles qui sont autour des chiens.
Si on revient sur cette fête de la nature, il va y avoir plusieurs animations proposées, notamment à Fondurle. Est-ce que vous avez le détail du programme à nous communiquer ?
Alors pour le détail du programme, déjà à Fondurle, ça se déroule le 27 et à Ambel, ça sera le 28, donc le samedi et le dimanche. Que ce soit le 27 ou le 28, vous aurez en continu de 11h à 18h l'association 1000 traces qui sera présente et elle pourra vous accueillir pour parler avec vous de la faune et vous montrer des empreintes, des plumes, des crottes et du coup échanger sur la vie animale sur ces deux ENS. Et aussi, le samedi, vous montrer comment on passe de la laine brute à la laine colorée grâce aux colorations végétales. Ça, c'est pour l'association 1000 traces. Le samedi, à l'alpage de Fondurle, vous pourrez faire une découverte de la spéléologie, justement dans la glacière. Et vous serez encadré par le technicien du comité départemental de spéléologie. Attention, il faudra vous inscrire. Hein. Il y a des départs à 10h, 13h et 16h, mais il faut s'inscrire sur le site de la Fête de la Nature. Et il y aura aussi deux randonnées accompagnées par Rando Vercors et Nicolas Peyrtou à 11h, 14h et 16h. Et aussi par Romain Ribeiro, en quête de nature, avec des départs aux mêmes heures, 11h, 14h et 16h. Sur les animations accompagnées, il faut que vous vous inscriviez.
Est-ce qu'on peut donner un aperçu également des animations qui se déroulent sur le plateau d'Ambel, l'autre ENS ?
Alors, bien sûr, sur le plateau d'Ambel, vous aurez rendez-vous à Gardiole. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y aura l'association 1000 traces qui sera là pour vous accueillir autour des empreintes et de la faune. Ensuite, vous pourrez aller voir un atelier grimpe dans les arbres. On pourrait faire un voyage photographique avec une initiation à la dessin de la botanique. Et de nouveau, Nicolas Peyrtou et Romain Ribeiro qui pourront vous accompagner, donc le deuxième jour aussi, de la même façon à Ambel. Donc avec les mêmes types d'horaires, 11h, 14h et 16h, pour les deux animations.
Et donc ça se passe le dimanche 28 mai, donc pour ces animations plutôt sur le plateau d'Ambel. Pour ces différentes sorties proposées à l'occasion de la fête de la nature, quels sont vos conseils pratiques et logistiques ?
Eh ben, vous venez en montagne, hein, vous allez être à 1500 mètres, donc il peut faire frais. Donc aujourd'hui, par exemple, il fait magnifiquement beau, mais il y a du vent. Donc n'oubliez pas de prendre au moins un coupe-vent. Vous pouvez même amener un petit bonnet, des petits gants, ça rarement de trop. De la boisson, de l'eau. Et puis, vu le programme, je pense que ça sera bien d'amener un pique-nique.
Est-ce que c'est un programme qui est accessible aux familles et aux enfants ?
Oui, même il cible particulièrement les enfants, mais il est accessible à tous et il y aura de l'intérêt pour tous. Donc bien sûr, vous pouvez venir en famille.
Donc merci beaucoup Annick pour la présentation donc, de ce programme des animations qui se dérouleront les 27 et 28 mai prochains sur les deux sites du plateau d'Ambel à Amblaise et de l'alpage de Fondurle à Bouvante à l'occasion de la fête de la nature. Et vous retrouverez donc le détail des animations sur le site fêtedelanature.com.
Merci à vous et bon week-end le 27 et le 28.
Un pas de côté.
Merci à Annie Claute, éco-garde du département de la Drôme, qui nous présentait l'édition 2023 de la Fête de la Nature. Elle se déroulera du 24 au 29 mai prochain, avec de nombreuses sorties nature gratuites proposées sur l'alpage de Fondurle-la-Bouvante et le plateau d'Ambel à Amblaise. La nature reste au cœur de notre prochain sujet, Damien, puisque Sarah a rendu visite à la vannière Emmanuel Brumelot-Aucibal. Emmanuel Brumelot-Aucibal qui cultive l'osier qu'elle transforme ensuite en vannerie paysanne, qu'il s'agisse de paniers, de cueillettes, de corbeilles ou même de berceaux. Elle a également à cœur de transmettre ce savoir-faire autour de la vannerie sur le Vercors Drôme. Avec l'association Cause au Balcon, Emmanuel Brumelot-Aucibal a notamment réalisé les œuvres du sentier Les Yeux Miroflés. Est-ce que vous êtes déjà promené sur ce sentier, Damien ?
Alors oui, c'est un sentier qui part au départ du col de l'Écharasson. Très bel endroit hein, qu'on accède depuis Comblaval, depuis le Royan, ou via le col de Carie, depuis la chapelle en Vercors. Et un sentier qui nous emmène un petit peu dans l'imaginaire, qui nous emmène un peu loin, avec différentes œuvres qui ponctuent ce sentier. Et donc Emmanuel a participé activement, via son savoir-faire, à la réalisation de ces œuvres.
Tout à fait. Donc, c'est des œuvres qui sont soit en osier, en noisetier, en clématite et d'autres essences également et qui sont suspendues dans les arbres tout au long du sentier. On écoute donc cet entretien réalisé par Sarah en avril 2023 avec la vannière Emmanuel Brumelot-Aucibal.
Le nom de mon activité, c'est la vannerie paysanne. Je suis installée à Saint-Julien-en-Vercors. Je donne des stages avec des thématiques, des techniques différentes. Et parfois aussi des matériaux différents, même si l'osier reste mon matériau de prédilection, puisque c'est l'osier que je cultive.
Donc l'osier, c'est du saule, et c'est le rejet de l'année du saule, qui est coupé en hiver, hors sève. Donc moi, je suis installée en culture d'osier. On appelle ça l'osiericulture. Donc l'osier, il est récolté en hiver, et après, on le trie. Et c'est ce qui se passe en ce moment, on le trie par variété, par longueur. Après, on en fait des bottes. Ce qu'on voit ici aujourd'hui, qui est plein dans la grange, c'est l'osier qui est sorti du champ. Une fois qu'il est récolté, il est lié, après il est remonté ici, dans cette grange. Et après, on le trie. Alors, pendant l'hiver, on le trie pour l'osier vivant, c'est-à-dire qu'on fait des structures avec l'osier et on le remet en terre. C'est-à-dire qu'il va reprendre. On appelle ça l'osier vivant. Il y a une cabane au village que j'ai fait pour l'école. Il y a une haie aussi. Donc l'osier reprend vie. Et sinon, maintenant, on est en train de faire le tri pour l'osier sec qui va être mis à sécher à plat dans la grange. Et après, donc, il est mis en bottes par longueur et par variété. Et mis à sécher à plat. Et une fois qu'il est sec, c'est-à-dire fin août, il est prêt à être vendu ou utilisé par moi-même pour mes stages et pour ma propre production, parce que je suis aussi vannière. Moi, en fait, j'ai passé ce qu'on appelle la capacité agricole en 2005 pour m'installer en polyculture élevage. Et puis finalement, le hasard des rencontres dans la formation a fait que j'ai repris une petite parcelle d'osier au début sur le Vercors.
Et puis après, la vie m'a amenée à retrouver une amie qui était vannière et qui avait planté une parcelle d'osier en bas, à côté de Saint-Marcellin, à Saint-Véran exactement. Donc au début, je l'ai aidée à reprendre cette parcelle et pour finir, donc je me suis installée avec l'osier. Et petit à petit, je l'ai repris toute seule et j'en ai planté aussi un peu sur le Vercors. Il y en a aussi ici aux Alberts.
Est-ce que c'est une culture qui s'adapte à la moyenne montagne ?
Très bien. Le saule, en fait, on en trouve partout, autant dans les milieux désertiques qu'en montagne. Et le seul inconvénient qui peut arriver, c'est qu'il soit couché par la neige. Mais sinon, on est plutôt, nous autres, aux agriculteurs, on recherche pas forcément la longueur, mais plutôt des brins fins. Hein, et au-delà de 2,20 m, c'est beaucoup moins intéressant pour nous. Ce qu'on appelle les longueurs vannières, c'est-à-dire de 80 cm à 1,60 m. Donc on ne recherche pas des brins très longs.
Et quand c'est trop long, vous les coupez pour la production ?
Non, on ne les coupe pas. En fait, on les trie et ça devient des écarts de tri qu'on va broyer. Ou alors, on peut aussi les écouler en ce qu'on appelle du déclassé. Et les grandes longueurs, elles vont être utilisées surtout pour la vannerie d'extérieur, qu'on va utiliser de l'osier semi-frais, parce que c'est beaucoup plus souple à travailler. Donc après, une fois que l'osier est sec, par contre, pour le travailler, il faut le mettre à tremper. Il faut mettre à tremper une douzaine de jours dans des grands bacs. Ça, c'est de ce qu'on a. Donc c'est tout du salix, hein, comme je vous ai expliqué, c'est du saule. Et après, on a des variétés et des sous-variétés. Donc ça, c'est une variété qui s'appelle le Purpurea. Et sa sous-variété, c'est Helix ou Helixis. C'est une couleur qui devient verte, un joli vert clair. Donc la plupart des osiers, ils ne changent pas de couleur au séchage. Il y en a un seul qui se transforme, c'est le jaune. Donc là, il en reste un petit peu parce qu'il a été déjà trié. Lui, on l'appelle le Salix alba vitellina. Et lui, on le voit souvent devant les fermes en têtard. En têtard, ça veut dire qu'il pousse à partir d'un tronc. Alors que nous, aux agriculteurs, on cultive l'osier à partir du sol. Parce que le but, ils sont très serrés sur le rang. Le but, c'est d'avoir des brins le plus long possible, le plus fin possible. Donc, ils sont très serrés sur le rang. Donc là, j'ai planté il y a 6 ans. Il y a 8 rangs, donc 8 rangs d'osier avec 4 variétés différentes. On a du Fragilis rouge belge, on a du Salix, on a de l'Alba vitellina, de la Triandra petite grisette et une autre variété qui s'appelle la Gravanche qui est sur 2 ans. C'est pour ça qu'on les voit avec les chatons là et les feuilles. Ce que ça s'appelle, c'est pour faire de la perchette, pour avoir des osiers un peu grands et costauds pour des structures. Entre les rangs, on a l'écartement de l'outil du cheval, donc à peu près 70 à 80 cm. Et là, ce qu'on peut voir aussi, c'est le tas de broyats, hein, ce qu'on voit là sur le côté. Parce qu'après, les écarts de tri, donc tout ce qu'on enlève après tri, on les broie. Et on en fait, on l'utilise pour faire, là, on a fait des lasagnes pour du compost. Et sinon, ça peut servir en couverture de sol. C'est très intéressant.
Donc, il n'y a pas de déchets dans votre activité ?
Aucun déchet. On est dans la grange où sèche l'osier. Donc là, ce qui est couché, c'est ce qui a été trié déjà de cette année. Donc, on retrouve 3 variétés. Donc, il y a le Purpurea Helix, le vert clair, le Fragilis rouge belge et le Purpurea Tafnoïde. Celui-là, c'est un osier incroyable. On l'appelle la bleue dans certaines régions. Et devient vraiment bleu en séchant. Donc là, il va rester jusqu'à fin août asséché à plat. Et une fois qu'il est sec, il est mis debout, donc contre le mur, où on retrouve ce qui reste de l'année précédente, voire pour les grandes longueurs des autres années, parce que c'est ce qui part le moins vite. Et on voit qu'il n'y a plus beaucoup de longueurs vannières, parce qu'on est fin avril. Voilà, donc une fois qu'ils sont secs, il faut les resserrer, parce que l'osier vert, quand il est mis à sécher et après quand il a séché, il faut resserrer les liens parce qu'il perd de l'épaisseur, il perd du poids. Voilà. Et après, à partir de là, on le vend donc par longueur au poids. et par variété.
Et donc, si on veut venir vous voir dans cette magnifique ferme où vous travaillez, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on vous contacte?
Je peux recevoir les gens dans mon atelier pour voir mes vanneries. Via l'office de tourisme, vous avez mes coordonnées, donc mon téléphone. Et c'est bien de me donner un petit coup de fil avant de venir pour savoir si je suis présente, bien sûr, même si je le suis la plupart du temps, et prendre rendez-vous. Mais sinon, je travaille aussi sur commande. Donc, on peut me commander des paniers pour diverses utilisations du quotidien et autres. Mais ça peut être aussi des lampes ou autres objets.
Un pas de côté.
Merci à Emmanuel Brumelot-Ossibal, vannière, donc qui répondait aux questions de Sarah. Et c'est le dernier arrêt de notre évasion touristique du mois, du côté du bar-restaurant et crêperie chez la Yacht, à la Chapelle en Vercors. L'établissement qui a changé de propriétaire fin 2021 propose des crêpes, mais aussi des paninis et des tacos dans la grande rue du village, avec une petite terrasse pour profiter des beaux jours. Sarah est allée rencontrer les nouveaux propriétaires, Christelle et Jean-Philippe, qui ont voulu faire de leur bar-restaurant un lieu convivial et accueillant.
La Yacht. Donc en fait, c'est notre bar qui s'appelle la Yacht, parce que ma femme est de la Haute-Savoie, et là-bas on dit qu'elle est de la Yacht.
Avec un accent bien précis.
Exactement, la Yacht.
Ça évoque la montagne, mais d'autres montagnes.
Exactement, d'autres montagnes, donc les Alpes, donc avec des différences par rapport à ici, puisque ça monte un peu plus en altitude.
Avec Christelle, votre femme, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes gérant?
Alors, ça fait depuis le 16 décembre 2021, donc c'est assez récent, hein. Mais en fait, on est très content d'être là.
Qu'est-ce qui vous a amené ici?
En fait, on avait un projet, une fois nos enfants élevés, devenus indépendants, de reprendre un commerce, et notamment un bar, dans un village de moyenne montagne. Parce qu'on a connu la haute montagne et on préférait être au niveau de la montagne à vache, comme on dit. Et on a eu l'opportunité de trouver ici, à la Chapelle en Vercors, puisqu'on a de la famille qui habite à Saint-Agnan et à Saint-Julien. Et comme on venait en vacances, on est tombé par hasard ici et on a vu qu'en fait, le fonds de commerce était à vendre. Pour nous, le bar, c'est vraiment le lieu de vie, le lieu d'échange. En fait, c'est ce qu'on voulait, hein, un petit peu l'endroit où toutes les générations vont se croiser pour discuter, pour boire un verre. Et puis, bon, on fait un petit peu de restauration, mais c'est uniquement de la restauration de bistrot, en fait. Le matin, eh bien, en fait, on accueille tous les gens qui vont bosser au niveau de la région et qui prennent le petit café, et également les anciens qui viennent boire leur petit café aussi. Et puis un peu plus tard dans la matinée, et ben c'est les gens qui se rencontrent, qui viennent discuter, papoter, et la matinée se déroule tranquillement, et puis on arrive au repas, et là c'est d'autres personnes qui arrivent pour se nourrir. Et l'après-midi, bah c'est les promeneurs, c'est les gens du coin qui ont envie de se poser, de manger une crêpe ou boire un chocolat.
En fait, c'est un travail, un vrai travail, de rendre un lieu qu'on reprend un lieu des rencontres pour beaucoup de monde très différents. Comment vous avez entamé ce travail?
Eh bien, en fait, la première action, c'était de se rapprocher un petit peu des autres acteurs locaux, de savoir un petit peu ce que on pouvait attendre de nous pour participer au développement économique du village et d'amener un petit peu de vie dans ce village, surtout qu'on est soumis à différentes saisons, où la saison d'été, il y a énormément de monde, les saisons d'hiver, c'est plus les locaux, donc on voulait vraiment se rapprocher des deux clientèles.
Et vous vous êtes rapproché donc des autres structures qui font de l'accueil, mais aussi des producteurs locaux.
Exactement, pour nous ça nous paraissait important de faire travailler les acteurs locaux, c'est-à-dire que ça soit au niveau du fromage, au niveau Verte à Cochon par exemple, hein, nos amis Félix et Annabelle, et puis bien d'autres, j'en oublie. C'est important de faire découvrir aux gens qui viennent découvrir la Drôme et notamment le Vercors, tous les bons produits que l'on a dans le coin.
Et c'est vous qui cuisinez ?
Eh oui, c'est moi qui cuisine. Puisque Christelle, quand on a pris l'affaire, a dit « il est hors de question, je cuisine ». Donc j'ai dit « c'est moi qui vais m'y coller
». C'est une reconversion professionnelle, est-ce que ça a été difficile ?
C'est une reconversion professionnelle, tout à fait. Oui, ça n'a pas été simple parce que j'ai jamais été cuisinier à la base. Mais bon, on avait dans l'idée de faire des choses simples puisque avant tout c'était le bar. Et on fait un peu de restauration, en fait c'est pour plus dépanner les gens de passage, puisque nous, on est ouvert toute l'année. Donc, c'est vrai qu'il y a des saisons où il y a peu de commerce ou peu d'offres au niveau restauration. Et ça permet à ces gens-là de manger assez rapidement et manger du local et des bonnes choses.
Vous voyez défiler tous ces beaux mondes et vous entendez beaucoup de mots, beaucoup de choses sur ce village. Quelle est l'image du village qui émerge à partir de tout ce que vous entendez dire dans ces locales?
Eh bien, en fait, c'est un village authentique. Je crois que les gens sont simples ici. Ils aiment discuter, se rencontrer, partager. Ça, c'est important. Et puis, en fait, ils font plein de choses avec la nature. Ils sont vraiment en osmose avec la nature et ça, c'est passionnant. La période des champignons, on n'entend parler que de champignons. La période de la chasse, ce sera la chasse. Ce sera le jardin partagé. Ce sera plein de sujets vraiment différents. Et puis, en fait, les gens qui découvrent, qui viennent se promener, qui viennent marcher, en fait, se croisent avec les gens d'ici. Et puis, il y a du partage. Il y a aussi tout ce qu'est l'histoire ici, tragique, de la guerre. Et les gens partagent des choses, oui, vraiment. Et ils sont toujours prêts, les gens d'ici sont toujours prêts à expliquer une petite balade aux promeneurs. Il n'y a pas d'a priori sur les gens, il n'y a pas d'inquiétude. Les gens sont très ouverts, c'est très appréciable.
Donc c'est un village entier qui a vocation à l'accueil, mais il y a aussi des saisons d'accueil qui marquent aussi le rythme de votre travail. Par rapport à cette année où on n'a pas eu de neige, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez à l'avenir de l'activité touristique avec Apprenson?
Et en fait, oui, ça nous inquiète puisque le mois de mars a été très 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 calme dû au manque de neige. Donc les gens montent moins se balader, aller skier, à Fondurle, à Herbouilly ou au col du Rousset. Mais d'une autre partie, il y a toujours les marcheurs. C'est-à-dire que ici, les gens sont passionnés par la nature. Donc s'il n'y a pas de neige, on a nos pieds, on peut aller randonner, on peut aller faire du VTT. Il y a plein d'activités, en fait, la spéléo ou l'escalade. Et toutes ces activités, en fait, font qu'on croise des gens de tous les coins. Et puis, comme on a la chance d'avoir une belle région, les gens sont enchantés. Donc ça, c'est sympa.
Un pas de côté.
Merci à Christelle et à Jean-Philippe, les nouveaux propriétaires du bar-restaurant et crêperie chez La Yacht à La Chapelle en Vercors, qui nous présentaient leur établissement au micro de Sarah. Damien, c'est déjà la fin d'Un pas de côté, notre magazine d'évasion touristique en Vercors Drôme. On se retrouve le mois prochain pour de nouveaux reportages inspirants.
Et oui, alors d'ici là, profitez bien de tous ces beaux jours qui arrivent, de cette fête de la nature qui va nous emmener sur ces beaux endroits du Vercors Drôme. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet dans la rubrique Agenda pour voir tous les événements, toutes les animations qui vont ponctuer ce mois de mai.
Tous les rendez-vous y sont répertoriés en effet. Merci Damien et puis un grand merci à nos auditrices et à nos auditeurs de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition d'Un pas de côté.
Merci et à bientôt.
Un pas de côté.